Suite des écrits de Francis Raugel, section I de l'entrée de l'apostasie et du déclin de la pureté de la doctrine, du culte et de la pratique, depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui, le Christ a dit : Gardez-vous des faux prophètes qui viennent à vous en vêtements de brebis, mais qui au-dedans sont des loups ravisseurs, vous les reconnaîtrez à leurs fruits, Matt 7:15-16, et beaucoup de faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Matt 24:11, cela s'est accompli à l'époque des disciples. Jean a rendu témoignage, « Petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez entendu dire que l'antéchrist vient, dès maintenant il y a plusieurs antéchrists, par quoi nous connaissons que c'est la dernière heure, ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. » 1 Jean 2:18-19. Et Pierre a dit, « Il s'élèvera de faux docteurs, qui introduiront des hérésies pernicieuses. » 2 Pie 2:1. Et Paul écrivit à Timothée, « L'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, s'attachant à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, proférant des mensonges avec hypocrisie, interdisant de se marier et prescrivant de s'abstenir d'aliments. » 1 Tim 4:1-3, cela était ennemi de la croix du Christ. Ils se sont répandus dans le monde, et cela remonte à plus de 1400 ans. Lorsque le mystère d'iniquité commença d'opérer, ils sortirent et prêchèrent le Christ en parole, mais renièrent la croix, et dire des choses qu'ils n'auraient pas dû dire par appât du gain. Ce fut le commencement des mercenaires qui ne se souciaient pas du troupeau, ils en gardaient la forme, mais en reniaient la puissance, car ils étaient hors de la puissance et hors de ce qui mortifie les œuvres de la chair, et ils se répandirent parmi les nations, les familles, les langues et les peuples, qui ont maintenant pris le nom d'Église. Jean a dit, ce sont là les eaux sur lesquelles il vit assise Babylone la mystérieuse, et elle, et tous ses enfants, se tournèrent contre la femme libre, l'épouse de l'agneau, et la firent fuir au désert pour un temps, des temps et la moitié d'un temps, et Babylone la mystérieuse tendit sa coupe d'or pleine d'abominations, et prétendit que le Christ était son époux, et s'assit comme une reine, et les rois de la terre burent de sa coupe, et furent ensorcelés par ses enchantements. Alors toutes les nations devenant comme des eaux, instables, enivrées des abominations de cette coupe, chancelaient çà et là, étant hors de la puissance du Christ qui aurait dû les affermir. Alors une grande bête s'éleva de ses eaux, avec 7 têtes et 10 cornes, et ses ministres apostats, qui prêchaient par appât du gain, et ceux qui les croyaient, se réfugièrent sous la bête et crièrent, « Qui est capable de faire la guerre à la bête ?» Et les rois de la terre lui donnèrent leur puissance, et la fausse église monta sur elle, et la chevauche, et elle le fait depuis bien des années, et elle a cheminé dans la grandeur de sa force, se donnant le nom de la femme libre et revêtant son apparence extérieure, elle dit « Je suis celle-là », et ainsi elle a trompé les nations. Alors on commença à faire des lois au sujet de la religion, alors commencèrent les contraintes en matière de conscience, qui étaient contraires à la pratique de la véritable Église. Maintenant, Rome, regarde tes débuts et considère ton antiquité. Six nations, familles, langues et peuples ont bu de la coupe de Babylone la mystérieuse depuis les jours de Jean, quelle raison as-tu de te vanter d'antiquité et d'universalité? Cela prouve plutôt que tu es la prostituée que la véritable Église, car six nations, familles, langues et peuples, universellement, sont les eaux sur lesquelles elle est assise et si la bête est montée des eaux, lis-toi toi-même et disculpe-toi de l'apostasie si tu le peux. Depuis que Jean a vu la véritable Église, la femme vêtue du soleil, qui enfanta l'enfant mâle, fuir au désert, quelle raison as-tu de te vanter de visibilité ou d'universalité? Quand as-tu été au désert, si ton Église n'y a pas été, alors cela démontre que ton Église n'est pas la femme vêtue du soleil, car elle s'envola au désert comme avec des ailes d'aigle. Si la bête a fait la guerre à tous ceux qui ne portaient pas son image, alors nous vous tenons comme dans un étau, entre nous et le temps des apôtres, car nulle contrainte de ce genre n'existait dans la véritable Église. Donnez un exemple d'une telle chose, si vous le pouvez, tirer de leurs écrits, où des hommes et des femmes furent-ils tués par l'épée, ou par de longs tourments, en leur temps, de telles pratiques ne se sont trouvées dans aucune autre Église sauf chez vous, Rome et chez ceux qui, au mieux, ne sont que dans vos faubourgs, les protestants. Et il est connu que votre Église a été soutenue bien plus par la force et la cruauté que par une saine doctrine, bien que vous puissiez dire « Je suis innocente, je n'ai persécuté personne jusqu'à la mort. Au contraire, j'ai une bête à chevaucher, qui fera la guerre pour ma cité et contraindra à mon culte et à mes institutions. Je l'exalterai comme la puissance supérieure et je dirai « Quiconque résiste à cela résiste à l'ordonnance de Dieu, et il contraindra et détruira pour moi, et me qualifiera de sainte Église, ainsi je serai innocente. » Ainsi il est clair que l'Église de Rome est dans l'apostasie, et cela est aussi évident par ses pratiques, car premièrement, ses ministres ne sont pas conformes aux ministres du Christ, dans les temps primitifs, leur appel n'est pas tel, ni leur pratique. Les ministres du Christ étaient faits ministres par le Saint-Esprit, mais les siens le sont par une ordination humaine et par l'étude, deuxièmement. Les ministres du Christ prêchaient l'Évangile gratuitement, Mais Rome a introduit les dîmes issues du judaïsme pour l'entretien de ses prêtres et a aussi inventé des offrandes, legs et droits mortuaires pour entretenir ses ministres. Troisièmement, les ministres du Christ ne contraignaient personne par la force à les entretenir, qu'on reçoive leur doctrine ou non, mais Rome contraint tous ceux sur lesquels elle a pouvoir, rendant ce qu'elle appelle l'évangile payant. Quatrièmement, son sacrifice non sanglant de la messe n'est d'aucun bénéfice, car là où il n'y a pas effusion de sang, il n'y a pas de rémission. Hébreux 9, 22, donc son Rome sacrifice est abominable et une idole. Commentaire de l'éditeur du site. La messe a acquis une variété de noms synonymes. Le sacrifice eucharistique, la liturgie eucharistique ou simplement la liturgie, c'est la célébration eucharistique, le saint sacrifice ou le sacrifice de l'autel. C'est le rituel consistant à manger du pain et à boire du vin ou du jus de raisin. Ce sacrifice est censé expier le péché. L'histoire de la pratique superstitieuse de l'Eucharistie, qui est à la base de la communion protestante, est la suivante. Astérisque l'Église primitive prenait ensemble le repas du soir dans les maisons, rompant le pain et partageant la coupe après le repas, une tradition juive, pour se souvenir du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne apparaître au-dedans d'eux et soit leur Seigneur conducteur pour toutes leurs pensées, paroles et actions. Le repas et la maison furent abandonnés pour devenir une cérémonie dans le bâtiment de la secte, une offrande rituelle, le sacrifice pour l'expiation du péché. Dans la lignée des religions païennes à mystère, le rituel fut déclaré sacré sacrement et ne pouvait donc être accompli que par des prêtres sacrés. Le pain et la coupe devinrent des objets saints, sacrés, et l'autel devint le lieu où la victime était offerte. Tous les autres regardaient le prêtre transformer magiquement le pain en corps de Jésus et le vin en son sang. Le prêtre rompait ensuite le pain, sacrifiant le corps de Jésus, mangeait son corps le pain et buvait son sang le vin, achevant ainsi de nouveau le sacrifice de Jésus comme leur offrande. L'assemblée regardait la représentation théâtrale avec une grande crainte, croyant que le pain et le vin étaient réellement devenus Dieu. Bien des années plus tard, les véritables membres de la secte furent invités à participer, mais seulement après que tous les autres eurent été renvoyés. Les réformateurs protestants ne purent rompre avec cette pratique inventée par l'homme, certains s'attachant à la superstition selon laquelle le pain et le vin étaient réellement changés en son corps et son sang, d'autres sectes protestantes soutenant que le fait de les consommer rendait le consommateur lui-même saint. Astérisque Frank Viola et George Barna, Pagan Christianity, Tyndall Books 2008, p. 193-195. Il doit être évident pour tous ceux qui reçoivent la doctrine des apôtres que le sacrifice de la messe est entièrement inutile. Par une seule offrande, le Christ a rendu parfait pour toujours tous ceux qui sont sanctifiés. Hébreux 10, 14. Christ est la propitiation pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. 1 Jean 2, 2. Il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Hébreux 10, 26. De ces doctrines, l'inefficacité des pénitences est aussi évidente, et il est manifeste qu'une dépendance à leur égard et aux messes pour l'expiation du péché, et pour être accepté de Dieu, est idolâtre, parce que ce qui s'y fit recherche pour la propitiation de leurs péchés et leur acceptation auprès de Dieu, d'autre objet que celui que Dieu a présenté, qui est le Christ, Rome 3, 25, par qui seul nous avons accès au Père. Jean 14, 6, cinquièmement. Sa liturgie et ses prières dans une langue inconnue des assemblées sont un culte stérile et vain, et contraire aux paroles de l'apôtre Paul qui a dit « Je rends grâce à mon Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Néanmoins, dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence, afin d'instruire aussi les autres par ma voix, que 10 000 paroles en langue inconnue. » 1 Co. 14, 18, 19. Tristement, n'ayant jamais appris, en juillet 2007, la messe en latin a été rétablie par le pape Benoît, attestant leur aveuglement persistant envers les Écritures qu'ils professent si bruyamment. Sixièmement. Sa doctrine d'un purgatoire pour purifier du péché est une chose inventée et imaginaire, et contraire à la doctrine primitive, selon laquelle le sang du Christ purifie de tout péché, 1 Jean 1, 7. Et sa distinction inventée entre péché mortel et péché véniel ne tend qu'à aveugler les gens, car le salaire du péché c'est la mort, Rome 6, 23, septièmement. L'adoration et l'invocation des anges et des saints, comme médiateurs entre nous et Dieu, est contraire à la doctrine primitive. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, l'homme Christ Jésus, 1 Tim 2, 5, et lui seul intercède pour tous ceux qui croient. L'ange reprit Jean lorsqu'il voulut l'adorer, disant « Garde-toi de le faire, car je suis ton compagnon de service, Apes 22, 8, 9, 8. Ces reliques et ces images sont contraires à ce que le Seigneur a commandé par les prophètes. Tu ne te feras point d'idole ni d'image taillée, tu ne dresseras point chez toi de statue. Tu ne placeras point dans ton pays de pierres sculptées pour te prosterner devant elle. Lévitique 26, 1, 2, 5, 8, 9, Ésaïe 6. Et dans Romains 23, ceux-là furent condamnés qui changèrent la gloire du Dieu incorruptible en une image ressemblant à l'homme corruptible. Ainsi l'Église de Rome peut voir que le culte des images est interdit dans la loi, les prophètes et le Nouveau Testament. Et quant à son culte des reliques, il n'y a ni commandement ni exemple de cela par le Christ ou ses apôtres. Neuvièmement, les pratiques qui consistent à commander de s'abstenir d'aliments certains jours et à interdire à quiconque prêtre ou religieuse de se marier sont énumérées parmi les « doctrines de démons » par l'apôtre Paul, 1 Tim 4:1-3. Il y a aussi beaucoup d'autres choses qui pourraient être énumérées, qu'on trouve dans l'Église de Rome et qui sont des preuves de son apostasie, comme sa doctrine de la présence réelle du corps et du sang du Christ dans le pain et le vin après la consécration par les prêtres, son observation de jours particuliers dédiés à des saints particuliers, la vente du pardon et des indulgences, etc. Section I sur la séparation d'avec l'Église de Rome maintenant, le Christ étant le chef de la véritable Église, qui doit régner par son sceptre spirituel dans les cœurs et les consciences des hommes, à qui le Père a confié tout pouvoir au ciel et sur la terre, et qui ne veut pas qu'aucun autre ait cette gloire, la séparation des églises protestantes, qui ont nié que le pape soit le chef, repose sur un bon fondement. Pourtant, la réforme est très imparfaite, car beaucoup de leurs doctrines et pratiques ne sont pas selon la doctrine et la pratique primitive, comme l'établissement d'une ordination extérieure et d'une forme d'imposition des mains sans le Saint-Esprit, et l'ordination comme ministre de ceux qui ont quelques compétences en langues et en éloquence, en les confinant à des paroisses, en prêchant pour salaire, en exigeant des dîmes, etc. Et l'usage de la musique instrumentale dans les services religieux, ce qui appartenait au culte juif, le fait de tenir certains jours particuliers pour saints, de limiter l'usage à certaines portions de l'écriture certains jours, et d'employer certaines formes de prière certains jours, et en bien d'autres choses, une brève histoire de l'introduction de quelques-unes d'entre elles, parmi ceux qui se disent chrétiens, suit ici, sur les jeûnes, les fêtes et les jours saints. Les juifs, dans la première alliance, avaient de nombreux jeûnes, fêtes et jours saints, comme le sabbat, la Pâque, la Pentecôte, la fête des nouvelles lunes, des pains sans levain, des tabernacles et de la dédicace qui sont largement exposés dans les livres de Moïse. Toutes ces choses, comme l'apôtre l'a dit aux Hébreux, n'étaient que des ombres des choses à venir, et non les choses elles-mêmes. Elles ne durèrent que jusqu'au temps de la Réformation, et jusqu'à l'introduction d'une meilleure espérance, fondée sur de meilleures promesses. Dans les églises chrétiennes primitives, ils en vinrent à voir la fin de ces choses, et furent conduits à celui qui était la substance, en qui toutes les figures et toutes les ombres prennent fin. L'apôtre dit donc, « Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête ou d'un jour de sabbat, ce n'était que l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ, » Col 2:16-17. Or, par la suite, lorsque les gens s'attachèrent davantage à la forme qu'à la puissance, ils retombèrent dans ces choses, avec beaucoup d'ajouts, certains empruntés aux païens et d'autres de leur propre invention, puis ils les imposèrent aux chrétiens comme des ordonnances apostoliques. Et ces choses ont encore force pour beaucoup jusqu'à ce jour, même parmi ce qu'on appelle réformés. L'observance des jours fut inventée pour commémorer tout événement remarquable se rapportant au Christ, aux apôtres, etc. Et sans aucune autorité divine, et pour des événements remarquables, comme la nativité, la circoncision du Christ et la purification de Marie, appelée la chandeleur, Pâques, la Pâque et la Pentecôte, étaient observés par les Juifs. Il fut décrété et ratifié à un concile à Lyon, en France, que les jours où les saints quittaient cette vie, ou accomplissaient un acte notable, seraient tenus pour saints, afin d'accroître leur religion. Sylvestre assigna le jour d'Advincula Sancti Petri, communément appelé Lama, en mémoire des peines et persécutions de Pierre. Félix Ier, afin d'exalter la recommandation des martyrs, établit une règle selon laquelle une offrande annuelle serait faite en leur mémoire, et Grégoire dit que la messe devait être dite sur leurs tombes et sépulcres. Il ordonna aussi que ni chair ni rien qui lui soit apparenté, comme le fromage, le lait, le beurre et les œufs, ne soit mangé les jours de jeûne. Boniface IV institua la fête de Saint-Étienne et des Innocents, de Jean-Baptiste, de Notre-Dame, de Laurent, de Michel, de Martin, etc. Ce qu'on appelle la fête du Corpus Christi, fête Dieu, fut établie comme jour saint et dédié par Urbain IV. Le jour de la messe des âmes fut commencé par Odilon, prévôt provincial de l'ordre de Cluny, parce qu'il entendit dire que de grands cris, lamentations et pleurs avaient été entendus autour de l'Etna, la montagne en feu de Sicile, ce qu'il supposa être les pleurs des mauvais esprits, qui se lamentaient parce que les âmes des hommes morts leur étaient enlevées par les prières et sacrifices de chrétiens bien disposés. Il institua donc, dans son couvent, une offrande générale pour toutes les âmes, le lendemain de la fête de la Toussaint. Télesphore ordonna que le carême soit observé avant Pâques, et y ajouta une autre semaine, appelée la quinquagésime, et dans cette semaine il commanda aux prêtres de jeûner davantage que les laïcs. Sur ce qu'on appelle les églises paroissiales et les cimetières les églises paroissiales, qui subsistent à ce jour tant dans l'église de Rome que dans celles qu'on appelle réformées, ont été ordonnées, baptisées et dédiées à des saints dans l'apostasie. les apôtres et ministres du Christ, qui publiaient la parole de réconciliation, et le Christ, substance de toutes les figures, rassemblèrent ceux qui croyaient parmi les Juifs, hors du temple et du culte du temple, et parmi les gentils, hors de leur temple et de leurs idoles, afin d'adorer Dieu en esprit, et ils se réunissaient dans des maisons et parfois au bord de la mer. Il n'est fait mention, dans les Écritures, d'aucune église paroissiale dédiée à des saints. La première église ou temple dont nous lisons qu'il fut consacré, le fut par Pie, évêque de Rome, vers le milieu du IIe siècle, en l'honneur de la Vierge Pudentienne. Ensuite, on dit que Calixte fit un temple à la Vierge Marie en un lieu au-delà du Tibre, et institua un lieu de sépulture, et l'appela de son propre nom. Vers l'an 226, il fut ordonné que les cimetières soient consacrés par Urbain, 16e évêque de Rome. Denise, en l'an 267, attribua aux divers presbytres, dans la ville de Rome, les églises et les cimetières, et à d'autres, en d'autres lieux, distribua leurs paroisses et diocèses respectifs, afin que chacun fût enfermé dans ses propres bornes et limites. Tels furent les commencements des églises paroissiales, des cimetières et des terrains consacrés, mais nous ne lisons d'aucun terrain consacré au temps des apôtres. Les chrétiens primitifs savaient que la terre est au Seigneur, et tout ce qu'elle renferme, et qu'elle est pure, bonne et bénie pour ceux qui croient. Maintenant, protestants, qui avez renié l'Église de Rome, regardez autour de vous et voyez à quel point vous demeurez attachés à Babylone, continuant d'acheter sa marchandise. Quant à votre terrain sacré, appelé cimetière, que vous jugez seul digne d'y enterrer les morts, et où vous voudriez contraindre tous à venir, n'est-ce pas parce qu'il y a là, en grand nombre, des officiers dans et autour de ce lieu, avides de récompenses, de sorte qu'ils ne voudraient rien perdre de ce qui pourrait leur être profitable, et ainsi ils contraindraient tous à venir là pour leur gain. Depuis l'entrée de l'apostasie, et dès lors que la puissance de la piété a commencé à être reniée, un certain nombre de noms se sont introduits dans l'Église, qu'on n'entendait pas avant ce temps, provenant d'hommes cherchant des charges, de grands titres, de grands profits et de grands revenus, au lieu de servir le Seigneur librement et volontairement, et non pour des dons et des récompenses. Parmi ces titres, le pape, sa sainteté, le vicaire du Christ, l'évêque universel, l'évêque métropolitain, les seigneurs cardinaux, archevêques, seigneurs évêques, archidiacres, doyens, prébendes, docteurs en théologie, bacheliers en théologie, vicaires, curés, etc. Ainsi que divers ordres de moines et de nonnes qui, comparés aux Écritures, ne trouveraient guère de parallèle quant à la charge, à l'œuvre ou à la doctrine. Il y a assez de ministres au sens littéral tant que l'entretien dure, mais le ministère de l'Esprit peu le connaissent. Lors de la promulgation de la loi, après qu'Israël fut sorti d'Égypte, Dieu choisit Aaron et ses fils pour l'office du sacerdoce, et le reste de la tribu de Lévi pour le service du tabernacle, et donna aux Lévites, par commandement, pour leur service, toute la dîme en Israël comme héritage. Et les Lévites, sur leur dîme, devaient offrir au Seigneur le dixième de la dîme, et le donner à Aaron pour lui-même et ses fils, de sorte que les prêtres lévitiques n'avaient pas d'autre part que le dixième du dixième. Quant au reste, il était pour les Lévites qui servaient au tabernacle, et pour les étrangers, les orphelins et les veuves. Les prêtres avaient aussi, outre le dixième des dîmes, les prémices de la terre, du blé, du vin et de l'huile, et la première toison. Mais comment se fait-il que ceux qui prétendent à un autre sacerdoce que celui-ci, jusqu'à se dire prêtres dans l'Église chrétienne, reçoivent le dixième de tout, même des bêtes impures comme les porcs et les poulains? Assurément, ils ne distinguent ni le temps ni le ministère, ou bien ils auraient honte de revendiquer un droit aux dîmes d'Aaron et des Lévites, qui n'avaient aucune part de terre parmi leurs frères, tandis que ces évêques, prêtres, etc., ont une grande partie de certains pays pour leurs revenus. N'est-ce pas là un autre joug que celui du pape? Faut-il recevoir cela comme doctrine apostolique, qu'on n'en parle jamais parmi ceux qui se nomment ministres du Christ, ni parmi ceux qui se disent chrétiens? L'apôtre ordonna dans les églises primitives qu'une offrande hebdomadaire soit faite par les saints, afin que chacun offre librement de ce dont Dieu l'avait béni, ce qui était remis aux diacres, et sur ce fond, les pauvres et les services nécessaires étaient pourvus. À l'époque suivante, des offrandes mensuelles furent faites, non exigées, mais données librement. Tertullien dit, « Tout ce que nous avons dans le trésor de nos églises n'est pas levé par imposition, comme si nous mettions les hommes à rançonner leur religion. Mais chaque homme, une fois par mois, ou quand bon lui semble, donne ce qu'il juge bon, car nul n'y est contraint mais laissé à sa propre discrétion, et cela n'est pas dépensé en vain mais pour le soulagement des pauvres, et pour l'entretien d'enfants pauvres privés de parents et des personnes âgées, et de ceux qui sont jetés en prison pour avoir professé la foi chrétienne. » Ce mode de contribution se poursuivit jusqu'aux environs de l'an 304, selon Eusèbe, Tertullien, Origène, Cyprien et d'autres. Origène dit, « Il n'est pas permis à aucun ministre de posséder, pour son usage personnel, des terres données à l'Église. » Le Concile d'Antioche, en l'an 340, constatant que de nombreux abus avaient eu lieu parmi les diacres, à qui il appartenait proprement de distribuer les offrandes et dons libres là où il y avait besoin, et qu'ils avaient retenu pour leur fin cupide, ordonna que les évêques puissent distribuer les biens, mais exigea qu'ils n'en prennent aucune part pour eux-mêmes, ni pour l'usage des prêtres, en reprenant l'exhortation de l'apôtre, « Ayant nourriture et vêtements, contentons-nous-en. » Chrysostome, qui vécut vers l'an 400, exhorta fortement le peuple à des contributions généreuses pour des usages saints, et dit « Je ne dis pas ces choses comme ordonnant ou interdisant qu'ils donnent davantage, mais tout en estimant convenable qu'ils ne donnent pas moins que la dixième part. » Ambroise, évêque de Milan, à peu près à la même période, prêcha les dixièmes à offrir pour des usages saints, comme on disait alors, mais il tirait toute son autorité des écrits de Moïse. Augustin, évêque d'Hippone, se joignit à Ambroise et menaça ceux qui ne donnaient pas leur dîme de grandes peines et de lourds jugements de Dieu, dîme que, disait-il, Dieu avait réservé pour l'usage des pauvres. Avant cela, pendant 400 ans, il n'avait pas été établi comme doctrine positive qu'il fallait les payer comme les Juifs le faisaient, mais les Juifs étaient donnés en exemple pour que les chrétiens ne donnent pas moins. Léon, vers l'an 440, fut très ardent à exciter la dévotion des hommes à offrir à l'Église, mais ne dit pas un mot quant à la quantité. Grégoire non seulement conseilla le paiement des dîmes d'après la loi de Moïse, mais aussi l'observation du carême, qu'il considérait comme la dixième part de l'année, disant « Nous sommes commandés dans la loi de donner à Dieu le dixième de toutes choses ». Vers l'an 600, le pape Grégoire Ier envoya Augustin le moine en Angleterre, par qui Æthelbald, roi du Kent, fut converti, comme ils disent, mais ce ne fut qu'au papisme. Et son clergé suivirent longtemps l'exemple des âges précédents, vivant en commun des offrandes de leurs convertis. Mais ensuite, ayant amené une grande partie de la nation à leur foi, ils commencèrent à prêcher que les dîmes devaient être payées. Et ayant enseigné au peuple que le pardon du péché se méritait par les bonnes œuvres et que les tourments de l'enfer s'évitaient par la charité, il ne fut pas difficile de les persuader de donner, non seulement leur dixième, mais leur terre et autres richesses, de sorte qu'avec le temps le clergé. Bien que, selon la loi de Moïse, il ne devait avoir aucune possession foncière, à l'exception des très limités faubourgs des Lévites, le roi de Mercie et Æthelwulf, roi de Northumberland, qui furent eux aussi convertis au papisme, promulguèrent des décrets selon lesquels les deux royaumes devaient payer les dîmes. Menace de quelques grands évêques, ce ne fut qu'aux environs de l'an 800 que la doctrine selon laquelle les dîmes devaient être payées fut généralement reçue, et alors elles étaient versées dans un trésor commun et réparties ainsi, un quart aux prêtres, dont chacun recevait sa part, un quart pour le secours des pauvres, des malades et des étrangers, un quart pour la construction et la réparation des lieux de culte public, et un quart à l'évêque, qui vivait généralement dans quelques monastères avec son clergé, d'où il les envoyait. Aucun des huit premiers conciles généraux ne mentionne jamais le nom des dîmes, mais le neuvième, tenu au Latran, sous le pape Calixte II en l'an 1119, parle de celle qui avait été donnée à l'Église par une consécration spéciale, car à cette époque, les gens croyant que les dîmes devaient être données aux pauvres, les donnaient aux chefs et gouverneurs des maisons religieuses qui en disposaient, tenant table ouverte pour les pauvres et les étrangers, et étant estimés saints et bons trésoriers des pauvres, comme en témoigne Cassian. Mais le concile, tenu sous le pape Alexandre III, en l'an 1180, voyant que beaucoup était donné aux pauvres et peu aux prêtres, fit un décret pour restreindre la liberté des gens. Il n'y eut, avant celui du Latran en l'an 1215 sous le pape Innocent III, aucune loi, canon ou constitution d'un concile général qui commanda les dîmes, ou qui les supposa expressément un devoir, à ce moment-là, le pouvoir du pape s'était accru. Et alors le peuple était plus disposé à les donner aux pauvres qu'aux prêtres, ce qui amena Innocent à s'écrier contre ceux qui donnaient leurs dîmes et prémices aux pauvres, et non aux prêtres, les traitant de grands coupables. Lors d'un concile tenu à Lyon, sous le pape Grégoire X en l'an 1274, il fut établi qu'il ne serait désormais plus permis aux hommes de donner leurs dîmes à leur gré, comme ils l'avaient fait auparavant, mais qu'ils devaient tout payer à l'Église mère. Le grand décret qui en parle le plus clairement fut pris au concile de Trente, sous le pape Pie IV, en l'an 1560. Il commanda de payer les dîmes sous peine d'excommunication. D'après ce qui a été exposé, on peut voir que les dîmes ne furent même pas considérées comme dues pendant de nombreux siècles après le Christ, et qu'en vérité elles ne furent jamais dues dans la Seconde Alliance, le Christ ayant mis fin au premier sacerdoce, avec toutes ses ombres et ses ordonnances charnelles. Sur les psaumes, les matines, les litanies et la messe, les Juifs avaient de nombreux officiers relevant du culte du temple, parmi lesquels des chantres, comme les Ezrabites et les fils de Korab et Asaph, etc. C'était sous la première alliance et cela appartenait à ce sacerdoce qui ne pouvait subsister à cause de son imperfection. Mais les chrétiens des premiers temps, qui avaient reçu le Saint-Esprit, s'en réjouissaient, et ceux qui chantaient, chantaient par l'Esprit et avec intelligence, à partir du sentiment de la présence de Dieu et de l'assurance qu'ils avaient dans leur cœur. Et ceux qui avaient vaincu, racheté de la terre, ceux qui avaient suivi l'agneau, qui leur avait donné la victoire sur le péché, la mort et le tombeau, chantaient un cantique nouveau, que nul ne pouvait apprendre, sinon ceux dont les noms étaient écrits dans le livre de vie de l'agneau. C'étaient les cantiques des rachetés, que Dieu avait délivrés de la main de leurs ennemis, et ceux qui les chantaient étaient témoins de ses œuvres merveilleuses, et le louaient par l'esprit et avec intelligence, ils ne se procuraient pas une forme de parole. Les chrétiens primitifs priaient aussi par l'esprit et avec intelligence, comme le Saint-Esprit les y poussait, et ils n'étaient pas limités quant à la durée, ni à des heures, ni à des temps fixes, mais seulement au moment où l'Esprit de Dieu donnait l'expression, et alors leurs prières étaient acceptées et étaient un doux encens. Mais depuis l'entrée de l'apostasie, l'Esprit et la puissance ayant été perdus par beaucoup, ils ont établi des imitations. Jérôme institua les matines à des heures fixes, comme le dit Polydore Virgile, et Pélage II fut le premier qui commanda aux prêtres de les dire quotidiennement, disant « Comme le juste tombe sept fois, ainsi par des prières assidues et par les matines, il peut se relever et s'amender autant de fois. » Pontien, 17e évêque de Rome, ordonna que les psaumes et les matines soient chantés dans l'église nuit et jour pour chasser les mauvais esprits. Damas, évêque de Rome, ordonna que les matines soient chantées dans toutes les églises et ajouta « Gloria Patri » à la fin de chaque psaume. Il institua aussi que les psaumes et les matines soient chantées à tour de rôle. Urbain II ordonna que celles qu'on appelle les matines de Notre-Dame soient dites quotidiennement et les confirma dans un concile qu'il tint à Mont-Clar, en France. Enfin, les matines et les prières devinrent si nombreuses dans l'église de Rome qu'ils furent heureux d'obtenir des chapelets pour les compter. Concernant la messe et les litanies, tant d'auteurs les ont raccommodées qu'ils en deviennent presque innombrables. Célestin ordonna que certaines prières soient dites par le prêtre lorsqu'il revêtait ses ornements pour la messe, commençant par « Judicam Domine », Dama institua la confession au début de la messe, et Gorgius fit dire la confession 9 fois de suite dans l'église latine. Télesphore ordonna que les évangiles et les épîtres soient lus, et Damas les répartit comme on les lit aujourd'hui dans certaines églises se disant réformées. Anastase ordonna que le peuple se tienne debout à la lecture de l'évangile, Marc ordonna que la première partie du credo soit lue, après qu'il eût été établi par le concile Nicée. La seconde partie, Es Spiritum Sanctum, fut composée par le concile de Constantinople. Eutychien institua que l'offertoire soit chanté pendant que le peuple offrait quelque chose aux pauvres. Gélase composa certains préfaces, Léon III ordonna l'encensement, qui appartenait à Aaron dans la première alliance, le Privative Mass, dit commun, fut composé par divers, Gélase composa Teuigiture, et Alexandre ajouta qui prit dit, Léon fit l'ajout de en igiture, et Grégoire ajouta 3 demandes au même endroit, dit qui nostra, etc. Innocent institua que les prêtres dans la partie supérieure du cœur s'embrassent, et que la paix pax soit portée au peuple. Serge ordonna que Agnudes soit chanté par le clergé au moment de la communion, 700 ans après l'ascension du Christ, le prêtre se tournant souvent vers l'autel et pivotant lorsqu'il dit, Dominus vobiscum ou orati fratre. Félix décréta que la messe ne serait dite que dans des lieux consacrés, et que nul ne devait toucher au mystère de la consécration sinon le prêtre. Anaclet ordonna qu'aucune messe ne soit dite si au moins 2 personnes ne sont présentes, de peur que le prêtre ne dise en vain à de simples murs, « Dominus vobiscum, le Seigneur soit avec vous », lorsqu'aucune personne n'est présente. Ainsi une pièce a été ajoutée à une autre, par quoi l'esprit des gens a été détourné de l'attention à l'esprit de Dieu, pour écouter ses cérémonies insensées et ses charmes inventés, et ainsi ils ont été conduits dans l'ignorance et l'ombre de la mort, où beaucoup ont établi leur demeure, et les marchands de Babylone ont fait commerce, pendant bien des centaines d'années, de telles marchandises, sous le nom d'ordonnances apostoliques et d'institutions saintes. Commentaire de l'éditeur du site. Peut-être commencez-vous à voir à quel point les églises protestantes et catholiques actuelles sont éloignées. Elles ont perdu de vue beaucoup de choses, notamment que Jésus a dit « Un temps viendra, et il est déjà venu, où les vrais authentiques adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car le Père cherche de tels adorateurs. » Jean 4, 23 « Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. » Jean 4, 24 « Pour être en esprit et en vérité, il faut d'abord être transformé par Dieu tout en demeurant dans sa parole parlée et sa lumière. Ainsi tous les cultes qui ne sont pas dans le Saint-Esprit, avec aussi la vérité en vous, déplaisent à Dieu. » Voir Propé Worship pour des lignes directrices permettant de revenir aux normes chrétiennes primitives. Le serment dans la première alliance, il fut ordonné aux Juifs de jurer par le Seigneur, et ils observaient les serments. Mais la doctrine du Christ, qui vint pour mettre fin à cette alliance et établir l'alliance éternelle, était « ne jurez point du tout, ni par la tête ni par aucune autre chose, et que le oui soit oui et le non non en toute chose. » et Jacques, apôtre de Jésus-Christ, qui connaissait la nouvelle alliance, laquelle est éternelle, et qui veillait sur les ordonnances de la première alliance, a dit « Avant toute chose, mes frères, ne jurez point, ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui, et votre non, non, de peur que vous ne tombiez sous la condamnation. » Jacques 5, 12. Et cela était la doctrine apostolique et catholique dans les églises primitives. Mais par la suite, les gens recommencèrent à instituer des serments, imitant les Juifs, qui étaient sous la première alliance, et justifiant leurs actes par les commandements donnés aux Juifs. Justinien, Saint Justinien le Despote, empereur de Rome, fut le premier à décréter que les hommes juraient par l'Évangile, ou par le livre appelé l'Évangile, en y posant la main tout en l'embrassant et en disant « Ainsi Dieu me soit en aide ». Beaucoup de personnes, plutôt que de jurer et d'attirer sur elles la condamnation, ce qui était la conséquence de leur refus de jurer, ont abandonné leurs biens et leurs libertés, et heureux seront ceux qui n'auront eu aucune part à provoquer les justes et à s'efforcer de les détourner du chemin du Christ, car le malheur viendra assurément sur ceux qui auront eu la main à cela. Afin qu'on voit que le refus de jurer n'est pas une nouveauté, on présente ici quelques exemples des fidèles qui souffrirent comme martyrs dans les siècles passés. Et il serait aisé d'apporter une nuée de témoins tirés des autorités ecclésiastiques, qui ont, en divers âges, refusé tout serment, on en produit ici quelques témoignages. Basilaïde, qui subit le martyre, sommé de jurer, affirma clairement qu'il ne lui était pas permis de jurer, car il était chrétien, de sorte qu'il semble que ce fût la marque d'un chrétien de ne pas jurer. Waltbrut, martyr, enseignant parmi le peuple de Dieu appelé Lollard, rendit ce témoignage. Touchant les serments, je crois et j'obéis à la doctrine du Dieu Tout-Puissant et de mon Maître Jésus-Christ, qui enseigne que les hommes chrétiens, en affirmant une vérité, doivent surpasser la justice des scribes et des pharisiens, ou de l'Ancien Testament, autrement il les exclut du royaume des cieux. Et touchant les serments, il dit, « Il a été dit autrefois, tu ne te parjureras point, mais tu accompliras envers le Seigneur ce dont tu t'es engagé. Mais moi je vous dis, vous ne jurez point du tout, ni par le ciel, ni par la terre, mais que votre parole soit oui, oui, non, non, car tout ce qui est au-delà vient du mal. Ainsi, comme la perfection des anciens hommes de l'Ancien Testament était de ne pas se parjurer, de même la perfection des hommes chrétiens est de ne pas jurer du tout, parce que le Christ le leur commande. » Les Vaudois ou Léonistes, qui étaient d'anciens et véritables protestants, professaient qu'il n'était en aucune manière permis à un chrétien de jurer. Et leur cause, sur ce point même, fut plaidée par l'archevêque Huchet, primat d'Irlande, déclarant que ce commandement du Christ, « Ne jurez point du tout », Matt 5, 34, leur suffisait comme défense. C'est l'un des articles de John Wycliffe, dont les ouvrages étaient autant estimés par les protestants d'Angleterre qu'ils étaient méprisés par les papistes, que les serments faits pour quelques contrats ou marchés civils entre hommes et hommes sont illégitimes. La plainte du laboureur, dans les prières, dit « Seigneur, tu nous donnes un commandement de vérité en nous disant oui, oui et non, non, et ne jurez pour rien. Tu nous donnes un commandement de douceur et un autre de pauvreté, mais Seigneur, celui qui s'appelle ton vicaire sur la terre a enfreint ces deux commandements, car il fait une loi pour contraindre les hommes à jurer. » Actenmon, Foll, Vol, 1 P 459, 9 Eudes, Chrysostome, évêque de Constantinople, blâme fortement ceux qui apportent un livre pour jurer dessus, enjoignant au clerc de ne contraindre en aucune manière quiconque à jurer, qu'il pense qu'un homme jura vrai ou faux disant « c'est un péché de bien jurer ». Sur l'étendue du pouvoir des rois et des magistrats dans les affaires de conscience, quand le Seigneur fit sortir Israël du pays d'Égypte par une main forte et un bras étendu, il fit alliance avec eux et donna une loi, des statuts et des ordonnances au mont Sinaï, par la main de Moïse, le juge d'Israël. Les lois et statuts qui furent alors donnés pour qu'Israël y marche concernaient des choses morales et civiles, et aussi le culte du vrai Dieu. Voyez l'Exode, les Nombres et le Deutéronome. Et ceux qui n'adoraient pas le vrai Dieu selon le commandement donné dans cette alliance devaient subir l'exécution du jugement selon la loi. Et Moïse et le reste des juges sur Israël devaient veiller à l'exécution des lois et des statuts sur les transgresseurs, si certains étaient idolâtres et adoraient un faux Dieu, ou blasphémateurs, ou profanateurs du sabbat, ils devaient être lapidés à mort. Et leur sang devait retomber sur leur propre tête. Cela était selon la loi de Dieu. Et quand Israël convoita un roi, Dieu leur en donna un, et ils eurent beaucoup de rois, oints de Dieu par son ordonnance, qui devaient gouverner de la même manière que Moïse, Josué et le reste des juges l'avaient fait. C'était avant que le Christ fût manifesté dans la chair, c'était l'ancienne voie, ce sont les anciens sentiers dans lesquels Israël devait marcher, mais cette alliance était défectueuse, comme dit l'apôtre, et ses ministres ne pouvaient subsister à cause de la mort. La loi, le sacerdoce, les ordonnances et le culte furent changés lorsque le Christ, fin de la loi pour la justice, fut manifesté. Or, comme Aaron et le reste des grands prêtres sous la loi n'étaient que des types et des figures du Christ, roi des saints, législateur et juge, et que leur pouvoir extérieur de contraindre au vrai culte ou de retenir l'idolâtrie sous cette alliance ne dura que jusqu'au temps de la Réformation, et n'était qu'un type de la puissance spirituelle du Christ, de ses armes et de l'exécution du jugement sur ses ennemis, qui ne sont pas soumis à son gouvernement et à sa puissance. La première alliance et ses ordonnances, et le pouvoir de contraindre au culte et de punir l'idolâtrie, appartenaient aux seuls juifs qui étaient sous cette alliance, et non aux gentils. Comme il est écrit, « Il fait connaître sa parole à Jacob, ses statuts et ses jugements à Israël, il n'a pas agi ainsi avec aucune nation. » Psa 147, 19-20. C'est pourquoi ceux qui voudraient ramener aujourd'hui les gens sous cette alliance et sous sa puissance, nient virtuellement la seconde alliance, qui est éternelle. Les ministres de l'Antichrist ont pressé les rois et les gouvernants en leur disant que Dieu leur a demandé de contraindre tous les hommes à un culte, bien qu'eux-mêmes soient divisés entre eux, l'un pour ceci, l'autre pour cela. Et parce que les rois d'Israël faisaient ainsi et avaient le pouvoir de le faire, ils ont conclu que les princes et les juges devaient faire de même, et par ce moyen, ils leur ont fait passer le coup sous un joug trop lourd à porter, que le Seigneur ne leur a pas demandé. Par ces contraintes et ces violences, beaucoup d'hypocrites ont été faits, et bien des consciences du peuple de Dieu ont été blessées et chargées, et à cause d'elles, beaucoup de rois et de gouvernants ont perdu leur domination sous les jugements du Seigneur. Tous ceux qui ont empiété sur la prérogative et la souveraineté du Christ ne sont que des usurpateurs de cette puissance que le Père a donnée à son Fils et qu'il ne donnera à aucun autre, d'être juge et législateur dans les cœurs et les consciences de son peuple. On peut objecter que les apôtres exhortent à se soumettre à toute institution humaine à cause du Seigneur, 1 Pie 2 13-14, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui, et Rome, 13 1-2, que toute âme soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, celles qui existent ont été instituées par Dieu. Celui donc qui résiste à l'autorité résiste à l'ordonnance de Dieu. Or, de ces Écritures, beaucoup de mauvaises déductions ont été tirées, comme que les rois et les gouvernants devaient être obéis en toutes choses, et qu'ils avaient pouvoir en matière spirituelle de faire des lois pour une manière de culte telle qu'ils la préféraient, et d'en interdire d'autres, et que tout cela devait être obéi. Dans l'apostasie, les ministres de l'Antichrist ont introduit de nombreuses inventions, traditions et institutions humaines pour le culte divin, et ils ont poussé les gouvernants à faire des lois et à contraindre tout le peuple à les recevoir, bien qu'elles aient été contraires au vrai culte de Dieu. De tels docteurs ont pressé le peuple à l'obéissance comme à un devoir, sur le fondement des Écritures susdites. Or, ces Écritures doivent être entendues comme parlant de soumission à des choses justes et équitables, qui ne sont que de nature civile ou morale, et d'ordonnances visant le bon et salutaire gouvernement d'un État, et elles ne peuvent être entendues de choses spirituelles ou relatives au culte de Dieu. Autrement, Pierre et Jean auraient eux-mêmes été transgresseurs, ainsi que les autres apôtres, qui, lorsqu'ils enseignaient hardiment au nom de Jésus et que les chefs leur commandèrent de ne plus parler en ce nom, désobéirent à l'ordre disant, s'il est juste. Sur le culte des images, les décrets des conciles et l'infaillibilité de l'Église de Rome. Léon, empereur de Rome, ordonna que toutes les images et peintures de saints fussent ôtées des églises, afin d'éviter l'idolâtrie, en l'an 726. Mais Grégoire y s'y opposa et Léon, pour confirmation, convoqua un concile d'évêques environ 800 en nombre, et ceux-ci, en l'an 730, décrétèrent que toutes les images seraient enlevées et brisées. Mais Grégoire y convoqua un autre concile à Rome, de près d'un millier d'évêques, et condamna Léon et les 300 évêques pour avoir ôté les images des églises, et il décréta qu'elle serait adorée avec toute révérence. Pourtant, le premier concile et celui-ci étaient tous deux d'une même foi, de cette Église catholique romaine dont ils disent qu'elle ne peut errer. Le concile d'Elvire décréta qu'aucune image ne devait être dressée dans les églises, ni adorée, et que les murs ne devaient pas être peints. Le concile de Constantinople décréta que les images ne devaient pas être admises dans les églises ou lieux d'assemblée. Mais le second concile de Nicée détermina que les images devaient non seulement être placées dans les églises, mais aussi être adorées. Au commencement du VIIIe siècle, Grégoire y blâma Sérénus de Marseille, un évêque, d'avoir fait abattre toutes les images, les avoir fait jeter hors des lieux de culte et les avoir détruites, parce que les Francs, qui s'étaient établis dans le sud de la Gaule, auxquels on en avait toléré l'usage au moment de leur conversion, avaient été insensiblement ramenés, par elle, à l'idolâtrie. Grégoire dit à cette occasion, quoique les images ne soient pas dressées dans les églises pour être adorées, elles servent néanmoins à instruire les ignorants. Mais le Concile de Trente dit, « Les images ont été dressées dans les églises afin qu'on leur rende la l'honneur et le culte qui leur sont dus. Si donc la doctrine de Trente était saine, la doctrine de Grégoire était hérétique. Les doctrines de l'un et de l'autre sont pourtant contraires à la doctrine des Saintes Écritures, et il serait bon que tous ceux qui ont la pratique de se prosterner devant des images et des tableaux, ou de les adorer, considèrent comment ils tiendront, au jour du jugement devant Dieu, qui a commandé, « Tu ne te feras point d'image taillée, ni aucune ressemblance de ce qui est dans les cieux en haut, ni de ce qui est sur la terre en bas, ni de ce qui est dans les eaux au-dessous de la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. » Le dernier concile, sous Jules I, abrogea les décrets du concile de Pise. Le concile de Bâle détermina qu'un concile d'évêques était au-dessus du pape et que ceux qui jugeaient autrement étaient hérétiques, mais le concile du Latran, sous Léon, décréta que le pape était au-dessus du concile et que quiconque pensait autrement devait être tenu pour hérétique. Le concile de Trente ordonna que les évêques enseignent le peuple et qu'il n'ait pas plus d'un bénéfice, en vue d'une promotion, qu'un seul lieu. Mais ils ont depuis rendu ce décret nul, et à présent des pays entiers leur sont trop étroits, et les protestants imitent la même chose. Quelle a été la validité de ces conciles d'hommes, agissant hors de la vie et de la puissance de Dieu, qui mettent la semence de Dieu en servitude? Or, Rome, regarde ton infaillibilité, ton universalité et ton unité, que tu exaltes tant, toi qui, tantôt dresses une chose, tantôt une autre la renverse, lorsqu'elle ne sert pas des intérêts particuliers. Ainsi les gens ont été menés ça et là pendant de nombreuses générations, et il y a eu persécution à propos de choses changeantes et sujettes à altération, et la vie, qui rachète du monde pour Dieu, n'a pas été recherchée. Que tous ceux qui désirent avoir la paix et jouir du témoignage du bienheureux Esprit de Dieu sortent de cette Babylone, cette cité de confusion, dont le siège est dressé sur le sable, dont la fondation est posée dans les eaux, et dont la foi repose sur des institutions humaines, variables et sujettes au changement. Qu'ils viennent à connaître le rocher des siècles, et le conseil immuable du Seigneur, et la sagesse du trésor pour régner dans leur cœur. Ils attendent dans la lumière immortelle de Dieu, qui est au-dedans, afin de voir au-dessus de toutes ces montagnes de ténèbres qui se sont élevées dans l'apostasie, et au-dessus de toutes les institutions, décrets, statuts, ordonnances et inventions des hommes, et qu'ils viennent à celui qui est le commencement de la création de Dieu, qui est cet esprit vivifiant par lequel tous qui croient sont relevés de la mort et rendus participants de la vie, laquelle est immortelle, qui ne se flétrit point, et alors ils seront rendus capables d'adorer le Seigneur. Bat tous les types figures, ombres et voiles, avec les institutions humaines et les ordonnances des hommes, les cérémonies et les vaines superstitions, traditions auxquelles Dieu ne prend aucun plaisir et qui ne profitent en rien. Car la vie s'est levée, le voile de la couverture, qui a été étendu sur toutes les nations, est déchiré, la nuit s'en est allée, le jour est venu, apparu avec éclat, les ombres ont passé et le matin de la justice apparu. Le Fils de Dieu, qui a donné à son troupeau l'intelligence, est venu en Kyr. Section Yves. Comment tous peuvent sortir de l'apostasie et devenir membres de la véritable Église, l'épouse de l'agneau, qui est en Dieu dans la mesure où Dieu est apparu ou s'est manifesté au fil des hommes en quelque âge, par des ombres, des figures ou d'autres apparences extérieures, l'esprit mauvais, la semence du serpent et le malfaiteur prenaient toujours la forme de la chose, lorsqu'elle venait à être en réputation. Les Juifs maintenaient les types, figures et ordonnances de la première alliance, et s'opposaient au Christ, la lumière et l'alliance éternelle, ainsi qu'à ceux qui le prêchaient ou le publiaient. Et lorsque le nom du Christ vint à se répandre, de faux apôtres et des ouvriers trompeurs, ennemis de la croix et de la puissance de Dieu, prêchèrent le Christ par esprit de dispute et d'envie, et pour un gain honteux l'argent, et par des pratiques iniques rendirent le nom de chrétien odieux parmi les païens, et par leurs actes impies firent blasphémer le digne nom par lequel les saints sont sauvés. Quand l'apôtre rassembla beaucoup de croyants et les établit dans l'ordre de l'Évangile, et que cet ordre et la conduite des saints vinrent à être en bonne estime, de faux apôtres et des ouvriers trompeurs surgirent. Et comme les apôtres et les saints se réunissaient dans des maisons, les faux apôtres se glissèrent dans leurs maisons, conservant la forme et reniant la puissance. Et il fallait se détourner de tels gens, selon l'exhortation de l'apôtre à Timothée. Depuis que la véritable Église s'enfuit dans le désert, la fausse Église apparut au grand jour pour siéger comme une reine sur les eaux, les nations et les peuples. D'autres choses ont été introduites, qui n'étaient pas des institutions du Christ ni des Églises primitives. Et c'est après elle que le monde a erré dans la nuit sombre de l'apostasie, où le culte a été composé en partie de celui des Juifs, en partie de celui des païens, et en partie des inventions de ceux qui étaient dans l'apostasie, eux étant corrompus, et les Écritures ayant. Or, une mesure de l'Esprit de Dieu est donnée à chacun pour le bien de tous, et lorsqu'on y prête attention, elle montre ce qu'est le péché, la transgression, le culte formel et les transformations de la tromperie, et elle conduit ceux qui y croient hors de ce qui est souillé vers le Christ, le fondement sûr et la puissante puissance de Dieu, et elle leur fait connaître la paix de Dieu et la bienveillance envers tous les hommes. Ce qui restaurera tous ceux qui y croient, tous doivent l'attendre et en voir la manifestation dans leur cœur et le recevoir. Cela les fera sortir de l'apostasie, mais sans cela ils ne peuvent ni en sortir ni voir la fin de ces choses qui doivent être abolies, car c'est la seule puissante puissance de Dieu qui doit être reconnue et reçue par tout homme qui vient à être une pierre vivante de la cité sainte, un fils vivant de la femme libre et un véritable membre de la Jérusalem céleste qui est d'en haut. Ces paroles sont certaines et véritables, et heureux celui qui les entend, les croit et les reçoit. Une sélection des lettres au troupeau, une épître aux amis en Irlande. Note, Francis Haugill et Edward Burroughs voyagèrent un jour ensemble en Irlande, selon les instructions du Seigneur données à l'un et à l'autre, afin de prêcher le véritable évangile. Ils y eurent beaucoup de succès, touchant de nombreuses personnes, puis ils furent arrêtés et renvoyés en Angleterre. Ceci semble avoir été écrit lorsqu'ils étaient détenus à Dublin, en attente de leur transport de retour en Angleterre. Il écrit à ceux qu'il venait de convaincre et d'établir dans des réunions silencieuses au cours des semaines précédant leur arrestation. Cela constitue un excellent exposé de ce qui se passe dans le voyage spirituel, du toucher, à la tribulation, puis au royaume, et enfin à l'union. À vous tous qui avez cru le rapport, qui avez reçu le témoignage, et à qui la parole du Seigneur est venue avec puissance, vous tournant en quelque mesure des ténèbres à la lumière, le souhait et le désir de nos âmes sont que la grâce et l'amour de Dieu se multiplient et abondent en vous et parmi vous, afin que par là vous croissiez dans l'union et la faveur avec Dieu, et dans la communion avec tous les enfants de la lumière, et que vous soyez nourris comme des enfants nouveau-nés du lait de la parole qui demeure à jamais. Et en vérité, bien que nous soyons maintenant séparés de vous selon le corps, nous sommes présents avec vous en esprit, ne cessant pas de prier Dieu pour vous, mais par des soupirs du cœur vers lui, nos âmes sont répandues au trône de la grâce en votre faveur, afin que votre foi ne soit pas rendue vaine, connaissant votre état et votre condition, étant profondément sensible à votre faiblesse pour résister aux tentations de l'ennemi, vous étant encore jeune et tendre dans l'expérience de la voie et de l'opération de Dieu, et peu familiarisé. Et chers amis, cette charge, au nom du Seigneur, nous la plaçons sur vous, que dans la crainte du Seigneur, vous vous réunissiez attendant dans l'espérance patiente, dans la lumière qui conduit hors de la nuit et hors de toutes les œuvres des ténèbres vers le jour, la gloire et le lever du soleil de justice, afin que tous nuages et voiles soient ôtés, et que la nuit d'obscurité et de trébuchement soit entièrement achevée, afin que, comme enfants de la lumière et du jour, vous marchiez en produisant des fruits de justice à la gloire de Dieu. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous préserve, jusqu'à l'achèvement de votre course avec joie, dans la voie du Seigneur, afin que vous connaissiez comme vous êtes connus, et qu'il vous soit donné victoire sur la mort, l'enfer et le tombeau, et que, par le combat, vous participiez à la couronne immortelle, qui ne se flétrit pas. Soyez donc fidèles dans l'obéissance à la volonté de Dieu, rendue manifeste dans la lumière, qui condamne le mal et choisit le bien. De jour en jour, devenez soumis à la croix du Christ, prenant son joug et son fardeau, qui met à mort et crucifie l'homme charnel avec ses affections, ses désirs et ses convoitises, afin qu'étant mort à tout ce qui est mortel, vous régniez dans l'immortalité sur tous vos ennemis intérieurs et extérieurs, contre lesquels vous devez combattre, même contre les méchancetés spirituelles dans les lieux élevés, et contre les pensées et imaginations qui s'exaltent. Donc la force du Seigneur Jésus-Christ, et saignez-vous de sa puissance, et soyez humbles de cœur et soumis au Père en toutes choses, et ne soyez pas hautains mais craignez, tenez-vous dans le respect, et ne péchez point, ne fuyez pas non plus la croix du Christ mais quelle soit votre joie, et que l'amour abonde parmi vous cet amour même dont le Père vous aime, étant d'un seul cœur et d'un même esprit les uns envers les autres, vous pardonnant les uns aux autres, et vous reprenant humblement les uns les autres, si quelqu'un est surpris en quelque. Attendez pour discerner, afin d'avoir du sel en vous-même, pour vous connaître et vous goûter les uns les autres dans l'esprit, son opération et son œuvre, afin qu'étant sensibles et ressentant, dans l'esprit, l'état les uns des autres, vous puissiez parler pour instruire les uns les autres, pour vous édifier les uns les autres dans la précieuse foi. Mais soyez lents à parler et prompts à écouter, et ne nourrissez pas la sagesse sensuelle les uns des autres, qui est le siège du serpent, car des paroles sans connaissance obscurcissent le conseil et trahissent la simplicité. Mais prenez garde à la mesure de la lumière du Christ, et soyez vigilants en elle, ayant les reins de votre entendement saints, comme des serviteurs obéissants, attendant la volonté de Dieu, afin d'être des exécuteurs de sa volonté dans la simplicité et la sincérité du cœur. Soyez vigilants, de peur que le tentateur, par des imaginations, ne se présente dans une voie et une voix semblable à la voix et à la voix du vrai berger, et que par là la simplicité ne soit prise au piège, et que votre chemin et votre saveur ne se perdent, et que les ténèbres et les nuages ne viennent sur vous, et ainsi la tromperie se fortifie et prend occasion en Jésus-Christ. La fin de tout cela sera pire que le commencement, et la voie de la vérité sera blasphémée, et la grâce de Dieu sera changée en licence, et la porte de la vie leur sera fermée. Mais soyez droit de cœur et d'un esprit simple jusqu'à la fin, car celui qui vaincra mangera de la manne cachée. Rêve 2:17, Jean 6 31-35. Ne luttez pas les uns contre les autres, et ne vous jugez pas les uns les autres dans ce que vous ne voyez pas dans la lumière, mais demeurez chez vous, dans votre propre condition, attendant que le jugement soit parfait en victoire et que votre rédemption soit produite. Quoique vous ayez des tribulations dans le monde, des souffrances et des reproches de sa part, pourtant en Christ vous aurez la paix et la joie dans le Saint-Esprit. Car vos tribulations présentes et vos souffrances ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui doit être révélée en vous. En passant par la même entrée de tribulation que nous, vous serez rendus participants de la même vie, de la même gloire et du même héritage, pour vous réjouir et chanter à jamais le cantique de l'agneau, sur la bête, sur sa marque et sur le nombre de son nom. Vous tous, maîtres ou serviteurs, parents ou enfants, quelle que soit votre vocation ou votre condition, marchez d'une manière digne de l'Évangile de Jésus-Christ en toute sainteté, pureté et humilité dans votre conduite, et soyez des exemples de justice les uns pour les autres, afin que dans vos diverses places vous honoriez celui qui vous a appelé par des œuvres de foi et de justice, afin que la bouche de ceux qui guettent vos faux pas soit fermée, et que par vos bonnes œuvres, Dieu soit glorifié aux yeux de vos ennemis. Car l'Évangile qui vous a été prêché n'était pas pour conduire à de simples paroles, mais à la vie et à la puissance, et notre unité demeure avec ceux qui sont dans la vie et la puissance, et nous n'aurons jamais honte de les appeler frères et sœurs. Ainsi donc, chers enfants, soyez diligents dans l'œuvre du Seigneur, et fermes dans la vigilance sur vos propres cœurs en particulier, et veillez les uns sur les autres en général pour le bien et non pour le mal, afin que vous grandissiez en un seul corps, membre d'un seul chef, unis par l'Esprit à Jésus-Christ, qui est la lumière du monde, en qui vous avez cru pour votre salut, si vous persévérez dans la foi. Et votre rocher de défense et de salut est devenu pierre d'achoppement et rocher de scandale pour les princes et les gouvernants. Bien-aimés, en vérité nos entrailles sont émues pour vous, n'ignorant pas le dessein même de Satan, qui a maintenant suscité ses agents, pensant rendre vaine votre foi et votre croyance, et même tuer l'enfant au-dedans tandis qu'il est jeune. Mais notre confiance en le Seigneur à cet égard est forte, il vous préservera pour sa louange, et la petite semence ne sera jamais oubliée de lui. Mais quoique semée dans la faiblesse, elle se lèvera, poussera et sera relevée en puissance, pour le tourment de tous les ennemis du Seigneur. Vous dont le cœur a été touché par Dieu et qui êtes entrés dans la voie, ne regardez pas en arrière vers quelque gloire laissée derrière, mais abandonnez librement tout et avancez dans la voie étroite, par la mort de l'inimitié sur la croix, et à mesure que vous vous renierez vous-même pour Christ, votre récompense de sa part sera multiple. Demeurez dans le jugement jusqu'à ce que le fondement de toute injustice soit ôté, et ainsi la paix éternelle sera manifestée à la semence de l'immortalité. Ne regardez pas en arrière vers les difficultés ni vers les multitudes de tentations, mais considérez la lumière, qui est l'armure complète de Dieu, par laquelle vous recevrez la force de vaincre tous vos ennemis. Et l'alliance de Dieu sera établie avec vous, en laquelle vous recevrez la bénédiction en toutes choses et saurez user de toutes choses à la gloire de Dieu, voyant sa pure présence dans toutes ses bénédictions. Tenez-vous toujours dans la croix à l'égard du charnel, et votre intelligence sera gardée ouverte et claire pour recevoir les purs enseignements du Père, et sa sagesse d'en haut croîtra en vous, et la sagesse terrestre mourra. Si vous demeurez dans la lumière qui est dès le commencement, vous n'avez besoin de personne pour vous enseigner. Mais par l'onction que vous recevrez, vous serez enseignés parfaitement en toutes choses dans la voie de Dieu, et ainsi vous tiendrez témoignage pour le Seigneur et contre le monde entier et ses tromperies. Gardez-vous de l'amour du monde et du mauvais terrain et de l'homme envieux, de peur qu'il ne sème de l'ivraie parmi la bonne semence, et que vous ne soyez ainsi corrompus, et que le principe juste en vous ne soit trahi, et que Satan ne s'élève au-dessus de la mesure de l'Esprit de Dieu révélé en vous, et que vous ne périssiez ainsi dans les raisonnements. Mais nos cœurs espèrent de meilleures choses pour vous, à savoir votre croissance dans l'héritage avec Christ, pour régner avec lui sur le monde, dans l'héritage incorruptible, afin que nous régnions ensemble d'un seul cœur et d'une seule pensée, les uns avec les autres. Et en vérité, notre joie en sera accrue, au milieu de nos troubles et de nos souffrances, d'entendre et de comprendre votre fidélité et votre obéissance, dans la foi de l'Évangile qui vous a été annoncé. À la grâce de Dieu, en qui vous avez cru, nous vous confions, dans les entrailles d'un amour et d'une compassion éternelle, avec tendresse d'âme et d'esprit, pour être gardés dans la puissance de Dieu jusqu'au jour du salut. Que la présence éternelle du Seigneur Dieu, le Père éternel, soit avec vous tous. Amen, amen. Nous sommes à vous dans le Seigneur et nous sommes compagnons de captivité pour le témoignage de Jésus, que nous détenons, connu de vous et non du monde. De la maison du sergent d'armes à Dublin. Le 24 jour du 12 mois 1655, Francis Haugill Edward Burrough, une épître aux amis à Londres, un serviteur de Jésus-Christ, à tous les amis et frères choisis, obéissants et fidèles dans et autour de Londres, souhaite un accroissement de justice, de foi, d'obéissance, de patience et d'amour, afin que vous connaissiez et ressentiez un accroissement dans l'accroissement de Dieu, que votre joie, votre repos et votre paix soient pleins en lui, qui est la vie éternelle elle-même. Par lui seul se témoigne la rémission et le pardon des péchés, et ce n'est en aucun autre nom que le sien, lui qui est la puissante puissance de Dieu, que se témoigne la vie éternelle, où la victoire et la domination sur le péché, le monde et le diable, à savoir par Jésus-Christ, la parole de Dieu, la puissance de Dieu, par cette puissance seule se témoigne la force et la victoire sur la mort et le tombeau, par tous ceux qui croient en lui et le reçoivent. Et à cela il donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu et de recevoir. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, accomplissez notre joie, nous qui avons travaillé et peiné parmi vous et vous avons annoncé l'Évangile, qui est prêché à toute créature sous le ciel, et le salut commun qui fut transmis aux saints qui reposent dans le Seigneur, et qui est maintenant de nouveau transmis et annoncé à nous, en ce jour de miséricorde, d'amour et de grâce qui est le sien, et dans la révélation de sa justice, afin que sans nous ne soit pas rendu parfait, car tous ne forment qu'un seul corps, et si un membre manque, le corps n'est pas parfait. Vous-même êtes nos témoins que nous vous avons prêché Christ le Seigneur, dont nous avons été rendus participants, et nous-mêmes seulement vos serviteurs à cause de lui. Le Seigneur est notre témoin, et son Esprit en vous tous est notre témoin, que nous n'avons pas suivi des fables inventées, ni que par des paroles séduisantes de la sagesse des hommes, nous vous ayons annoncé quoi que ce soit, ni que nous ayons manié la parole de vérité avec tromperie, mais avec beaucoup de crainte, de sobriété et de tendresse envers tous ceux en qui il y avait quelque oreille pour entendre, ou quelque désir dans le cœur après le Seigneur. Nous n'avons pas non plus cherché à exercer une domination sur vous, mais nous nous sommes réjouis lorsque quelqu'un dominait, dans le Seigneur, sur la tromperie, et quand il régnait, nous régnions aussi. Nous n'avons cédé aucune place, pas même un moment, à ceux qui régnaient sans nous et non dans le Seigneur, et qui auraient voulu entrer, par tromperie et ruse, d'une manière quelconque, dans la vigne du Seigneur, et gâter les plans, et renverser la foi. La juste indignation du Seigneur tombera sur ceux qui ont fait cesser le scandale de la croix, qui se sont glorifiés dans la chair, et auraient voulu tout ramener là dans la chair encore, et qui ont ravagé le troupeau du Christ pour lequel il est mort, et auraient voulu faire vivre et régner ceux qui l'ont mis à mort, et ont tenu pour une chose vaine et basse ce qui purifiait du péché. Bien-aimés du Seigneur, qui êtes obéissants à la parole de sa grâce, ces choses sont survenues comme une épreuve, afin que nul ne mette à l'avenir sa gloire en l'homme, ni en quoi que ce soit, mais dans le Seigneur, la vie elle-même, et en ceux qui sont dans la vie, et que chacun demeure simplement en son propre état, et ainsi ne soit pas aisément ébranlé. Vous que le Seigneur a gardés à l'heure de l'épreuve et de la tentation, de sorte que vous ne vous êtes pas joints à l'erreur des méchants, estimez son amour et demeurez humbles, tenez-vous dans le respect de la pure présence du Seigneur, sinon vous connaîtrez que sa colère se rallume contre vous. Mais la crainte, le respect et la terreur du Seigneur vous gardent nets, clairs et purs à ses yeux. Que tous gardent à l'esprit le premier amour, et ce qui tient vos cœurs ouverts et tendres envers le Seigneur et les uns envers les autres. Rejetez toute querelle et toute contention, veillez sur les faux pas des uns et des autres, car ce qui s'en réjouirait est dans la transgression même. Demeurez dans l'amour et la paix les uns avec les autres. Prenez garde à la sécurité, à la négligence et à l'aisance dans la chair, car cela amènera parmi vous pauvreté, sécheresse et stérilité. Mais que tous ressentent la vie et la puissance de Dieu, et que votre foi se tienne en elle seule, et ceux qui s'y confient ne seront jamais ébranlés, car là vous serez préservés hors de l'inconstance et des choses changeantes, qui détournent l'Esprit de Dieu, lui qui ne change jamais. Celui qui a la clé de David ouvre la porte du trésor de la sagesse éternelle, et à chacun il donne une mesure selon le bon plaisir de sa volonté. À ceux qui l'attendent et qui sont fidèles, il donne de sa sagesse et de sa connaissance que les enfants de la désobéissance, dont la sagesse est corrompue, ne peuvent découvrir, mais en tous ceux qui croient, il répand une mesure de son esprit de vie, de pureté et de puissance, et dans la mesure tous ceux qui attendent ont unité avec lui, qui est la plénitude de toutes choses, et de sa plénitude ils reçoivent grâce sur grâce. Sa justice, son amour, sa sagesse, sa miséricorde et sa plénitude sont révélées de foi en foi. Comme vous croyez, ainsi vous êtes proche de lui, dont les voies ne peuvent être mesurées, et à mesure que vous croissez dans sa foi, et en lui, qui vous a éclairé et a resplendi dans vos cœurs, vous verrez davantage de son amour, de sa pureté, de sa sainteté, de sa sagesse et de sa gloire, et vous le sentirez et le comprendrez, et cela de lui et par lui, qui est invisible et éternel, béni au siècle des siècles. Amen. Ainsi, amis, pressez tous vers le but, afin que vous connaissiez la plénitude en lui, qui est tout beau et tout aimable, et vous qui connaissez son amour, et le bien-aimé, tenez-le fermement pour toujours, et ne le laissez pas aller. Rien ne peut vous séparer de lui si ce n'est un cœur impur. Mais si vous vous attachez à une chair étrangère, ou à des idoles, ou à d'autres amants, et que vous détourniez ainsi votre amour de lui, sachez ceci, il vous cachera sa face, et alors la tristesse remplira vos cœurs. Ne regardez donc pas de nouveau vers l'Égypte, ni vers ce dont vous vous êtes séparés, de peur d'être changés en statue de sel. Souvenez-vous de la femme de l'eau. Il y en a beaucoup de même nature qu'elle, qui servent d'exemple, afin que vous vous gardiez pour toujours, de peur que la même racine d'amertume ne pousse, comme elle a poussé parmi beaucoup. Et sur eux, il n'y a rien à attendre, sinon une attente quotidienne effrayante, des jugements quotidiens de Dieu pour leurs actes impies et leurs paroles dures contre la vérité et les serviteurs de celle-ci. Que tous demeurent dans la croix, afin que la nature d'où surgissent les convoitises et la guerre contre le Seigneur se flétrisse, meure et s'épuise, et ainsi vous verrez davantage de repos et de paix dans le Seigneur et avec lui, et celui qui a commencé l'œuvre achèvera l'œuvre. Toute puissance lui est confiée au ciel et sur la terre. Il opéra la justice sur la terre et préservera tous en paix en lui-même pour toujours, ceux qui croient en sa puissance. Ainsi, amis, je dois dire ceci, si vous êtes pressés de toutes parts, c'est dans vos propres entrailles. Comme je l'ai parfois dit lorsque j'étais présent parmi vous, je l'écris maintenant pareillement. La destruction vient du moi, et la stérilité vient du moi, mais à mesure que vous croyez en celui qui est proche, et en sa grâce le moi est jugé et brisé, et vous sentirez celui qui est le premier et le dernier élargir vos frontières, rendre votre montagne forte, votre héritage beau et votre terre belle et agréable, où le fruit délicieux de la justice est produit, lequel croît dans les vallées de la justice, où les parterres sont verts, où se trouve le jardin qui répand une douce odeur, et où tous ceux qui demeurent vivent et restent. Amis, par-dessus toute chose, demeurez abaissés et humbles, et ne vous jugez pas, ni ne vous estimez au-dessus de ce qui convient. Gardez-vous de la suffisance et de l'orgueil, de l'exaltation, de la présomption, des disputes et de la résistance envers ceux qui ont travaillé parmi vous dans la parole de doctrine, dont vous avez chaque jour l'exemple comme modèle devant vous. Qu'il n'y ait ni venterie, ni crêle, ni discorde, ni imitation, ni spéculation, mais dans la simplicité de cœur, supportez-vous et excusez-vous les uns les autres, et qu'il y ait en vous la même pensée qui était en Christ Jésus. Ainsi la paix sera dans vos demeures, et le repos et la prospérité dans vos habitations, et l'abondance et les richesses d'en haut de la sagesse céleste se multiplieront dans vos assemblées, et la pure présence de Dieu et sa puissance vous entoureront, vous qui avez un cœur droit envers le Seigneur. Afin que vous soyez des exemples et des modèles de sainteté et de justice dans votre génération, et que vos ennemis confessent que Dieu est véritablement parmi vous. Ainsi que la puissance du Seigneur Jésus-Christ repose et demeure parmi vous tous, afin que vous continuiez jusqu'à la fin, ce qui est le désir de celui qui ne se réjouira de rien davantage que de la prospérité de vous tous, dans la vérité éternelle du Fils de Dieu, héritier de toutes choses, béni pour toujours et à jamais sans fin. Un serviteur des plus petits pour l'amour de la vérité. Francis Raugel, une épître générale à la semence de Dieu, cher ami de partout, qui avait cru en notre Seigneur Jésus-Christ et est appelé par une vocation sainte au grand salut de Dieu, qui se manifeste en ce jour de sa puissance, gardez votre premier amour, et ne laissez ni les menaces des hommes, ni les froncements de sourcils du monde, vous effrayer au point de vous détourner de ce que vous avez estimé plus que tout le monde. Maintenant le soleil est levé, et un temps de brûlure est venu, et ce qui n'a pas de racines se flétrira, maintenant tout terrain sera mis à l'épreuve, et bénie est la bonne terre qui porte la semence qui doit hériter de la promesse. Oh, que les soucis de cette vie présente n'étouffent pas ce que Dieu a engendré, et voyant que le Seigneur a si merveilleusement œuvré pour nous ici, au milieu d'une grande opposition, ne laissez pas votre foi faillir, ni votre confiance en Dieu, lui qui délivra Jacob autrefois de son adversité et Israël de toutes ses détresses, lui dont le soin est sur son peuple maintenant. Et ayant vu le vide du monde, et ses voies sont cultes, que rien n'aveugle de nouveau vos yeux, et ne laissez ni les choses présentes, ni les choses à venir, vous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus, et ne prêtez aucune attention à ceux qui reculent pour se perdre, mais que cela vous enseigne d'autant plus la diligence, à être comme ceux qui aspirent à la gloire, à l'immortalité et à la vie éternelle. Le chemin de Dieu a toujours été haï du monde et de ses puissances. Ne tenez jamais compte des esprits rudes, car leur borne est fixée et leurs limites connues, mais pensez à la semence qui a domination sur tout, et n'abandonnez pas notre assemblée dans laquelle vous avez trouvé Dieu, et sa promesse et sa puissance parmi vous, et votre intelligence ouverte. Oh, souffrez plutôt toute chose que de laisser aller sans quoi vous avez cru, car quiconque le fait perdra en lui la preuve de l'Esprit de Dieu, et leur paix et leur joie seront perdues. Que le Seigneur Dieu vous préserve tous fidèles jusqu'à la fin. Votre cher frère, pour le témoignage de Jésus, Francis Raugel, prison d'Appleby, le 10 jour du 3e mois, 1664, une visitation d'amour, de paix et de bonne volonté à tout le troupeau de Dieu, maintenant, en ce jour d'épreuve et à l'heure de la tentation. Chers amis et frères, qui avez été appelés à croire par la sainte vocation du Seigneur, à la sanctification et à la sainteté, afin d'hériter des promesses de Dieu, et afin que vos âmes vivent et participent à sa bonté, afin que vous l'admiriez et louiez son nom pour toujours, voyant que le Seigneur, dans son riche amour et sa miséricorde, vous a visité, vous qui jadis étiez assis dans la région et l'ombre de la mort, et étiez rejetés loin de sa présence au temps de l'incrédulité, et voyant qu'il a fait briller sur vous sa lumière mire. Chers amis, recevez mon avertissement et mon exhortation fraternelle, car le Seigneur a poussé mon cœur à vous écrire, dans les entrailles de son amour bon et tendre, et sous l'impulsion de son Esprit céleste, afin d'éveiller vos esprits et vos consciences pures à la fermeté dans la foi de notre Seigneur Jésus-Christ. Et d'autant plus que vous soyez tous vigilants, voyant que les temps sont périlleux, car maintenant l'adversaire rôde, rugissant et ravageant à droite et à gauche, pour détruire et dévorer ce que Dieu a fait naître en vous, afin de vous. C'est une heure où la puissance des ténèbres est lâchée pour éprouver la foi de ceux qui habitent sur la terre, et elle est lâchée pour un temps. Bienheureux ceux qui se cachent sous l'ombre du Tout-Puissant, et sous les ailes de Christ Jésus, qui a été donné comme Rédempteur, Sauveur et Protecteur des hommes, afin que le méchant ne les touche pas. Maintenant le diable est en rage, parce qu'un plus fort que lui, qui règne sur le monde, est venu et a commencé à déloger l'homme fort, à le lier et à le chasser. Maintenant il est en rage et suscite toutes les tentations, au dedans et au dehors, et tous ses instruments pour s'unir à lui, pour faire la guerre pour lui, afin que Christ ne règne pas, lui qui est l'héritier de toutes choses, et donné comme chef et pour être la tête du corps, son Église dans laquelle lui seul a droit de régner, parce que le Seigneur de toute la terre, oui du ciel et de la terre, a remis toute puissance entre ses mains pour lier et délier, pour faire sortir de la captivité, et emmener captive la captivité. Afin que la vie et l'immortalité habitent de nouveau dans les fils des hommes, afin que la vérité et la justice prédominent, afin que la miséricorde et l'amour siègent sur le trône, afin que le salut atteigne les extrémités de la terre, et que cette puissance soit connue d'une mer à l'autre. Afin que tous ceux qui l'attendent et aiment son apparition, maintenant qu'il est manifesté, se réjouissent dans la bonté et la vie, et soient réjouis comme Zabulon et Nephtali au-delà du Jourdain, aux jours anciens, sur lesquels se leva une lumière merveilleuse. Afin que toute la terre soit remplie de sa louange et de sa gloire, elle qui a été remplie de ténèbres, de violence et de cruauté au temps du règne du diable et de l'Antichrist, qui a été long et grand sur la terre. De sorte que les cœurs des fils des hommes ont été corrompus, et ils se sont détournés du Seigneur, et ont dégénéré en une nature étrangère, et ont produit un fruit mauvais et corrompu comme celui de Sodome. Ceux qui font le mal n'en ont pas honte, ils ne rougissent pas non plus, mais sont devenus impudents par la longue habitude du mal, endurcis et impénétrables, sur eux doit venir le marteau du Seigneur, et son indignation doit être répandue. Mais vous que Dieu a appelé hors de cet état, pour entrer dans un état de rédemption et de pureté, par son Fils, la lumière du monde, qui a éclairé les yeux de vos esprits, conscience et entendement, afin que vous rendiez témoignage à celui qui est vrai, et un témoignage contre le monde qui gît dans la méchanceté, qui plaide pour elle et vit en elle comme si c'était la voie du bonheur. Tenez ferme votre liberté, tenez ferme votre foi, tenez ferme votre espérance, tenez ferme votre témoignage. Que nul ne vous prenne votre couronne, et d'autant plus que vous êtes entourés de tentations, et que les temps sont périlleux, d'autant plus vous avez tous besoin de demeurer près du Seigneur. Bien-aimés, ne laissez pas les Philistins boucher vos puits, car alors vous pourriez périr dans la sécheresse faute d'humidité. Le Seigneur accomplira sa promesse et gardera alliance avec ceux qui gardent alliance avec lui, mais si vous l'abandonnez dans vos cœurs en ce qui est manifesté, alors il vous abandonnera, et vous êtes alors livrés à la merci de votre adversaire, qui sera cruel. Ne tenez donc pas compte de l'orgueil de Moab, ni des outrages des enfants d'Ammon, car ils sont impies de cœur, et la teigne les dévorera comme un vêtement. Aussi quelques-uns reculant et cessent de suivre l'agneau par la souffrance, ils seront frappés, et le Seigneur ne prendra point plaisir en eux. Que dira Amalek, quand Israël tournera le dos au jour de la bataille, sinon, où est leur Dieu, en qui ils se confiaient? Et, celui qui les a fait sortir n'a pas été capable de les délivrer jusqu'au bout? Oh, que de telles choses ne soient jamais dites maintenant à Gath ou à Ascalon, comme aux jours anciens, de peur que les fils des Philistins ne triomphent, et que leurs filles ne se réjouissent dans leur méchanceté, car cela ferait pleurer le cœur de l'Israël de Dieu. C'est véritablement le jour de la guerre de l'agneau en notre temps, un jour de bataille, bien que ses armes ne soient pas charnelles, mais spirituelles. Nul ne va à la guerre et ne s'embarrasse s'il a l'intention de tenir bon et s'il est résolu à continuer avec lui dans la souffrance, mais il se débarrassera de ces choses qui encombrent, de peur de ne pas obtenir la victoire, la promesse ou la couronne, que recevront tous ceux qui endurent l'épreuve jusqu'à la fin, ô chers amis. Regardez au-dessus de toutes choses visibles, et tenez-vous en dehors d'elles toutes, et détachez d'elles, afin que l'ennemi ne vous prenne pas au piège. Quoi, la terre n'est-elle pas au Seigneur, avec tout ce qu'elle contient, et n'a-t-il pas donné les extrémités de la terre en possession à son Fils? Quoi, Abraham notre père n'a-t-il pas été béni, lorsqu'il fut fidèle et obéi à la voix du Seigneur, et sorti de son pays, ne sachant où il allait? Le Seigneur n'était-il pas avec lui partout où il allait, et sa bénédiction sur lui, lorsqu'il séjournait en terre étrangère? Dieu ne l'a-t-il pas traité avec bonté en Mésopotamie et parmi les Hittites? Et n'était-il pas aimé et craint parmi ses ennemis? Jean, le disciple bien-aimé et fidèle de Christ, n'a-t-il pas été banni à Patmos à cause du témoignage qu'il portait? Shadrach, Meshach et Abednego, enfants de la captivité, n'ont-ils pas été jetés dans la fournaise, et Daniel aussi parmi les lions, à cause du témoignage qu'ils rendaient contre le culte commun des nations, ordonné par la loi? Christ n'a-t-il pas enduré la mort de la croix, et la contradiction des pécheurs, n'a-t-il pas été condamné par la plupart? Les Hébreux croyants, bannis, n'ont-ils pas erré vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dans des tanières et des cavernes de la terre, à cause de l'espérance qu'ils détenaient et du pays qu'ils attendaient? Moïse, par la foi, n'a-t-il pas quitté la cour de Pharaon, et ne s'est-il pas fait le compagnon de pauvres faiseurs de briques en captivité? On pourrait apporter une nuée de témoins, même de ceux qui sont morts dans la foi, et pourtant ne sont pas rendus participants des promesses, dont beaucoup n'ont pas vu ce que vous avez vu, ni entendu ce que vous avez entendu, ni joui de ce dont Dieu a rendu plusieurs participants, et n'avons-nous pas une grande nuée de témoins en notre propre temps? certains qui n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort, pour le témoignage qu'ils ont reçu, cru et tenu fermement jusqu'à la fin, jusqu'à la mort. Beaucoup ne sont-ils pas morts en prison sous de durs traitements? Certains n'ont-ils pas été pendus, mourant d'une mort honteuse, et achevant leur course avec joie et paix? Beaucoup n'ont-ils pas enduré de grandes, dures et longues emprisonnements pendant des années? Sont-ils lassés maintenant? Non, beaucoup n'ont-ils pas souffert la saisie de leurs biens? Et n'ont-ils pas une récompense sept fois plus grande dans leur sein? Oh! Que la considération de ces choses demeure dans vos cœurs, et vous pousse à souffrir avec joie, afin qu'au milieu de la tribulation, à mesure qu'elle abonde, vous sentiez, selon la promesse de Dieu, votre joie abonder bien davantage, pour vous porter au-dessus d'elle. En effet, maintenant le temps est venu. Quiconque se manifeste être du côté du Seigneur doit souffrir, et celui qui ne le veut pas, mais retourne dans la voie large, et court avec le troupeau de porcs dans la mer de la souillure commune, doit y périr, et en vérité, il n'y a pas de place pour s'arrêter. Si Dieu est Dieu, suivez-le, si Baal l'est, allez après lui. Que nul donc, ne vous détourne de ce dont votre conscience est persuadée par l'Esprit du Seigneur, ne vous joignez pas non plus à ce que vous savez qu'il désapprouve, et dans l'obéissance vous aurez paix et joie. Ne regardez pas ceux qui reculent, car ils vont à la perdition, mais plutôt ceux qui demeurent fidèles, qui recevront honneur, gloire, immortalité et vie éternelle. Dans la puissance fraîche et céleste de Dieu, réunissez-vous et adorez-le, comme en d'autres temps, bien que le décret soit sorti, et d'autant plus que vous y avez été rafraîchis, consolés et édifiés, et que nul ne vous persuade de vous détourner de ce devoir innocent, d'adorer Dieu dans son esprit et de vous assembler, pour vous affermir les uns les autres. Car telle est la volonté de Dieu, et cela lui est agréable, comme beaucoup d'entre vous le savent bien. Veillez et priez, de peur que vous ne tombiez dans la tentation et dans le piège du méchant. Que le Dieu du ciel et de la terre affermisse tous vos cœurs, afin que vous le glorifiez dans votre génération, et que vous soyez pour lui une bonne odeur, en chaîne ou en liberté, dans la vie ou dans la mort. Telle est la prière de celui qui a cherché le Seigneur, et qui est résolu à le faire pour vous tous, jusqu'à ce que le Seigneur, par sa puissance, foule Satan sous vos pieds, afin que vous triomphiez de tout, vous réjouissant et louant Dieu et l'agneau, qui vit éternellement au siècle des siècles. Amen. Votre cher frère dans la patience et les souffrances de Christ, qui abonde en amour parfait envers tout le troupeau fidèle de Christ partout, Francis Raugel de la prison d'Appleby, le lieu de mon repos, où mes jours et mes heures me sont agréables, le 4 jour du 5 mois, 1664, une épître générale à tous ceux qui ont cru en la lumière du Seigneur Jésus et sont appelés de Dieu à suivre l'agneau à travers une grande tribulation. Chers amis, qui êtes appelés hors du monde et de ses vanités, pour servir le Dieu vivant dans la nouveauté de vie, et être ses adorateurs en esprit et en vérité, et être des disciples de Christ dans la régénération, et être baptisés avec lui dans sa souffrance et sa mort, afin que vous soyez participants de sa résurrection et de sa vie, et manifestiez à tous que vous êtes ressuscités avec lui, sortis du tombeau du péché, de la méchanceté et de la mort par le renouvellement de vos cœurs, et par vos affections et vos pensées tournées vers là. Tous les siens sont préservés des tentations de l'adversaire, au dedans et au dehors, qui cherche à déraciner ce que Dieu a planté, et à pincer la fleur et le bouton que Dieu a fait germer, par son tendre amour, dans nos cœurs, afin que vous mouriez au bien et soyez dépouillés de ce en quoi consiste tout votre bonheur, maintenant et pour toujours. C'est pourquoi, veillez tous et soyez circonspects, d'autant plus contre les tentations, de peur que vous ne tombiez et ne soyez pris au piège, que votre foi ne défaille, et que vous n'en veniez à manquer la promesse de Dieu, en ne demeurant pas fidèle jusqu'à la fin. Amis, un souci, un amour tendre et une jalousie selon Dieu sont dans mon cœur pour vous, et sur vous tous qui avez cru, afin qu'aucun de vous ne soit perdu et dispersé de nouveau dans les déserts et les montagnes, et les lieux secs et arides, où vous avez parfois été au temps de l'incrédulité, où les boucs rudes peuvent paître, ceux qui doivent aller à la gauche et recevoir la malédiction. Le zèle du Seigneur et de sa vérité, qui s'est si glorieusement manifesté parmi vous, au-dessus de tous les peuples et familles de la terre en notre génération, me contraint ainsi à vous écrire et à vous exciter à la fidélité en ce jour d'épreuve, car maintenant Satan désire vous vanner au-dedans et vous cribler au-dehors. Veillez donc tous et priez, afin que votre foi ne défaille pas, elle qui va être éprouvée maintenant, ainsi que votre espérance, votre amour et votre zèle pour le Seigneur et sa vérité, pour voir si votre volonté est pour lui devant les hommes, et quant à sa voix, son culte, ses lois et ses statuts qu'il a révélés dans vos cœurs, auxquels les hommes déchus s'opposent, contredisent et disputent, et ne voudraient pas qu'il règne ni que ses serviteurs obéissent. Que cela soit donc manifeste à tous, que vous craignez Dieu plutôt que les hommes, que vous l'aimez et lui obéissez au-dessus des préceptes des hommes qui sont contre lui, et si vous aimez les choses d'en haut plus que les choses terrestres, et si vous le reconnaîtrez, lui, sa croix, son opprobre et sa souffrance, ou si vous le renierez et aurez la liberté du monde, qui est une servitude et libre de justice. Ce n'est pas le temps des réserves, de la dissimulation, de l'hésitation ou de l'arrêt, car il y a une opposition totale entre Christ et Bélial. À mesure que Christ, sa puissance et son royaume se manifestent, d'autant plus la haine, l'envie et la colère du diable s'enflammant, lui qui a trompé les nations, aveuglé leurs yeux, et s'est manifesté dans ces sujets qui s'opposent à l'agneau de Dieu et foulant aux pieds le sang de l'Alliance. C'est pourquoi, vous tous, enfants du jour, revêtez l'armure de la lumière et chaussez vos pieds, maintenant que nous marchons dans des lieux épineux, et ne soyez ni craintifs ni hésitants, mais ayez des cœurs croyants. Ne demeurez pas à l'écart et oisifs lorsque d'autres sont engagés dans la guerre spirituelle. Ne retirez pas votre coup du joug lorsque d'autres tirent. Ne vous abritez pas lorsque vous voyez d'autres en péril. N'aimez pas le monde lorsque vous voyez d'autres l'avoir rejeté. Ne vous encombrez pas de choses pesantes lorsque vous voyez d'autres se décharger de tout fardeau. Ne tournez pas le dos au jour de la controverse, mais suivez l'agneau. C'est le jour de la tribulation dans lequel nous devons le suivre en notre temps, comme tous les martyrs et les prophètes en leur temps, dont les vêtements ont été blanchis dans le sang de l'agneau. Ainsi tous ceux qui persévèrent et ne sont pas pusillanimes recevront la couronne, l'honneur, la récompense, et ils régneront avec Christ, eux qui souffrent maintenant avec lui. C'est pourquoi, chers enfants de Dieu et disciples de Christ Jésus, que les reins de vos pensées soient saints, soyez maintenant prêts lorsque le Seigneur appelle. Qui est de mon côté, qui prendra part avec moi. Qui assumera mon opprobre, qui s'engagera avec moi, qui se rassemblera à mon étendard de salut levé, et à mon enseigne de justice déployée dans le monde pour le racheter, que tous disent dans leur cœur, « Me voici prêt à faire ta volonté, prêt à t'obéir et à te suivre, et à souffrir pour toi, car quiconque recule, le Seigneur ne prend point plaisir en lui. » Celui qui veut sauver sa vie la perdra, et celui qui veut sauver sa liberté la perdra dans l'esprit. Et celui qui veut sauver ses possessions terrestres, et pour elle reniera ce dont Dieu l'a persuadé qu'il doit être fidèle, perdra son héritage dans le royaume céleste. En un mot, quiconque manque à présenter le témoignage, qu'il sait que Dieu requiert et qu'il a le devoir de lui rendre, perdra le témoignage de son esprit, qu'il a parfois senti en lui, et il dépérira, et leur amour s'usera. C'est pourquoi, quiconque est résigné et abandonné au Seigneur sera approuvé et manifesté comme étant du côté du Seigneur, par l'obéissance à ces choses mentionnées. Amis, ne croyez-vous pas que c'est un devoir auquel tout chrétien doit s'exercer, se réunir pour attendre Dieu, l'adorer, s'avertir, s'exhorter et se fortifier les uns les autres, prier ensemble dans le Saint-Esprit, et les uns pour les autres, s'édifier et se consoler mutuellement. Ne croyez-vous pas que Dieu n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes et n'a aucune communion avec les idoles, mais qu'il est adoré partout, en tout lieu où les saints se réunissent en son nom. Encore, n'avez-vous pas été consolés, édifiés et fortifiés dans les réunions, et n'y avez-vous pas trouvé la présence du Seigneur et sa face, et n'avez-vous pas senti sa grande puissance agir dans vos cœurs lorsque vous étiez assemblés en son nom, agissant en vous pour l'ouverture de vos cœurs, vivifiant et rendant vivantes vos âmes pour Dieu, et abattant le mal? N'avez-vous pas senti ses miséricordes d'amour se répandre en vous, et la source de la vie s'ouvrir, et la sainte semence être rafraîchie, et le témoin de Dieu atteint en tout, et beaucoup convaincus et convertis à Dieu dans vos assemblées, de sorte que tous sont repartis consolés et rafraîchis, et résolus à continuer dans la grâce de Dieu. La considération de ces choses demeurant dans vos cœurs, et le sentiment de votre condition présente, devraient vous réveiller et vous pousser à la fermeté, dans la foi et la pratique que vous avez reçue et dans lesquelles vous avez marché, depuis le commencement de la manifestation de l'amour de Dieu envers vous, de sorte qu'il devrait y avoir peu besoin d'exhortation. Les ennemis de Dieu sont résolus à vous faire du mal, vous aussi, soyez résolus à faire votre devoir. Ils cherchent par tous moyens à faire tomber quelqu'un de ses principes et de sa fermeté. Cherchez-vous à échapper à leurs pièges et à demeurer purs dans vos consciences devant Dieu. Soyez vaillants pour la vérité, ne la vendez pas, mais vendez tout pour elle, afin qu'elle soit votre tout, et alors vous verrez que votre lot est tombé en un bon lieu et que votre possession est agréable. Le Seigneur appelle maintenant à souffrir, mettez donc maintenant vos coups dans le joug, portez les fardeaux les uns des autres, et accomplissez ainsi la loi de Christ, et prenez garde de ne pas écouter ce qui dit, sauve ta liberté, sauve ton bien, garde ce qui est à toi et pourvois à toi-même, épargne-toi, c'est la voix de l'ennemi de vos âmes. Dominez donc le monde et son esprit, qu'aucune mollesse ne paraisse, car cela prolonge les souffrances, et cela donne à vos adversaires l'espoir de l'emporter, et cela affaiblit les mains des autres et ne les fortifie pas. Cela confirme, nos ennemis dans leur opinion que nous ne sommes que comme d'autres hommes et d'autres peuples, qui ont professé Dieu en été et par beau temps, mais feront naufrage de tout dans la tempête, dans la souffrance, et tout écart hors du saint commandement de Dieu ouvre la bouche des ennemis de Dieu. Ne cherchez pas chacun votre seul profit, votre aise, votre vie et votre liberté, mais le bien d'autrui chacun, et ne pensez pas seulement à un membre mais à tout le corps. Ne tenez pas compte de ceux qui reculent, ils ne sont pas un précédent à suivre, Mais ceux qui vont de l'avant et ne se scandalisent pas autant de l'épreuve, eux sont votre précédent. Ne tenez pas compte de ceux qui vous diront qu'ils peuvent garder leur tête droite devant Dieu et conserver leur amour pour la vérité et pour leurs amis, et pourtant ne voudront pas accorder leur présence à vos assemblées, mais évitez la souffrance, reniez la croix et négligez leurs devoirs présents, car c'est tromperie, et leur propre cœur les trompera. Ne remettez pas à demain, ne différez pas jusqu'au moment où vous pourrez voir un peu plus d'aisance et un plus grand calme. Gardez-vous de cela, car alors la froideur, la peur et un esprit servile entreront, et vous perdrez votre force. De plus, si certains ont bien commencé et sont persuadés de la vérité de ce qu'ils ont cru, et ne continuent pas jusqu'au bout, et ne terminent pas, ceux-là seront comptés comme des bâtisseurs insensés, qui n'ont pas pu achever, et tous se moqueront d'eux, et nos adversaires se glorifieront sur eux. Encore, lorsque certains souffrent ou sont mis en chaîne pour Christ et pour l'Évangile, qu'ils ne cherchent pas à en sortir par des moyens détournés, et qu'ils ne fassent aucune alliance avec l'adversaire, qui vendrait aussi bien eux que toute foi et toute espérance pour de l'argent, car cela encourage la tromperie, et cet esprit voudrait se racheter du service de Dieu et se lasser. Ne lui laissez aucune place, que chacun soit content de sa condition présente, jusqu'à ce que Dieu se lève et plaide notre cause, et fasse paraître notre innocence et notre justice comme le plein midi, et fasse de ses adversaires son marchepied, ce qu'il fera sans aucun doute, et fera connaître à tous que le Très-Haut doit régner, et régnera dans les royaumes des hommes, et qu'il ne donnera pas sa gloire à un autre, ni ne permettra qu'un autre la prenne. Ne vous conformez à aucun de ceux qui, sous prétexte d'amour, cherchent à vous persuader ou à vous conseiller de vous détourner de votre devoir envers Dieu, ne vous soumettez pas non plus à ceux qui vous trahiraient en vous ôtant votre paix. Ne tenez pas compte des froncements de sourcils des hommes corrompus, ni du conseil de ceux qui ne cherchent que leur plaisir, leur aise, leur profit et les choses terrestres, que les affections naturelles et l'amour, soit pour les terres, la femme ou les enfants, n'aveuglent pas vos yeux, mais aimez-les, recevez-les dans le Seigneur, et jouissez-en comme s'ils n'entravaient pas. Tenez-vous détachés de toute chose, hors des enchevêtrements, et rejetez votre souci sur le Seigneur, qui prend soin de l'orphelin et de la veuve, et de ceux qui n'ont point d'aide sur la terre. Ne donnez occasion ni avantage à aucun qui voudrait détourner vos cœurs de la suite du Seigneur, de peur que leur amour ne vous trahisse. Remettez au Seigneur tout ce que vous avez et dont vous jouissez, pour son service, et vos âmes, vos corps et vos esprits, comme un sacrifice au Seigneur, afin qu'il vous accepte, et qu'il répande et continue sa bénédiction parmi vous. Ne tenez jamais compte des menaces de ceux qui sont comme les chaînes de Bazan, ni des hommes de la terre, qui ne cherchent que leurs plaisirs et leurs convoitises, eux qui vous enferment en prison, et vous traînent devant les tribunaux pour le culte de Dieu, vous accusent faussement et vous condamnent quand Dieu vous justifie, amis. Demeurez au-dessus de toutes ces choses, et au-dessus du diable et de sa rage. La terre est au Seigneur et tout ce qu'elle contient, on ne peut nous bannir de la présence de Dieu, et ils ne pourront jamais déraciner ce témoignage qui est parmi nous. Que le Dieu de puissance vous fortifie tous, afin que vous vous conduisiez comme des hommes de Dieu, comme des enfants du Très-Haut, dont l'héritage n'est pas ici dans le monde, mais dans le royaume qui ne se flétrit pas. Que le Seigneur Dieu de puissance soit avec vous, vous fasse considérer ce que je dis, et vous fasse recevoir cet amour véritable que j'ai pour vous tous, pour l'amour du Seigneur, lui qui s'associe à tous les membres souffrant de Christ dans leur chaîne, et qui peut et saura se réjouir de votre consolation et de votre joie. Que la paix de Dieu demeure dans vos cœurs, et que sa lumière céleste brille sur tous vos tabernacles, afin que vous soyez beaux aux yeux du Seigneur comme les roses de Saron, et que vous fleurissiez comme les lys de la vallée, et que vous donniez votre fruit comme le figuier qui ne laisse pas tomber son fruit. Le Seigneur prend notre parti, que nul n'en doute, et il plaide notre cause, que tous y réfléchissent, nos ennemis le verront et en seront troublés, et le temps le manifestera, soyez donc des cœurs croyants, et mettez votre confiance dans le Seigneur, ainsi vous ne serez jamais confondus ni honteux, mais vous serez comme le mont Sion qui ne peut être ébranlé. Comme les montagnes entourent Jérusalem, ainsi les miséricordes du Seigneur vous entoureront dès maintenant et à toujours. Amis, la foi est scellée dans mon cœur, et l'amour dans mes veines, et l'allégresse dans mon âme, et la paix dans ma conscience, de sorte que nul ne fait, ni ne peut, empêcher ma réjouissance. Louange soit au Seigneur pour toujours et à jamais. Amen. Le serviteur du Seigneur, et le vôtre, dans tout amour vrai, sans feinte et pur. Francis Raugel. Le but de ce site web est de montrer comment être libéré du péché en bénéficiant de la puissance transformatrice de Dieu par la croix, qui conduit à l'union avec Dieu dans son royaume.